Chères auditrices, chers auditeurs, vous allez écouter la partie 1 de l'épisode 3, deuxième saison. Cet épisode 3 donne un sens au titre du podcast, Le jour d'après. Où allons-nous? Comment fait-on après un drame? Sommes-nous utiles? Sommes-nous restés sur le quai de la gare? Avons-nous laissé passer des trains? Est-ce qu'on est capable de se raccrocher à un wagon? Qui sommes-nous? Toutes ces questions existentielles après un traumatisme qui sont nécessaires à une reconstruction. Associations, structures, soins de support, thérapie bref, sport, art-thérapie, sophrologie sont des atouts pour vous reconstruire. N'hésitez pas, parlez, partagez, vous n'êtes pas seul. Le jour d'après est une fiction inspirée de faits réels. Allez, place à l'écoute. Épisode 3, la fin des chapitres. Je suis arrivée en Corse pour le dernier rendez-vous avec Mélodie. David était venu me récupérer la veille. Je venais de louper de peu mon permis. Le stress de l'examen m'avait fait perdre tous mes moyens, dès la première minute. Passer son permis en pleine séparation n'est pas l'idéal, je vous le confirme. Je n'étais donc toujours pas autonome sur la route. Pendant tout le chemin, nous nous sommes tus. Nous naviguions dans un silence de mort. Ce trajet fut interminable. David a dû s'arrêter à plusieurs reprises sur les bas-côtés étroits, presque inexistants. Je n'étais pas habituée aux routes sinueuses de la Haute-Corse et des nausées remplies de colère me prenaient à la gorge à chaque virage. Nous avons atteint le lotissement en fin de journée. J'ai pu assister au spectacle du soleil couchant, verre de vin à la main, au fond du jardin. Ses claquettes étaient sur le perron. Je les chaussais et je marchais dans ses pas. Ricky ou la belle vie sur mes talons. Les enfants étaient chez les parents de David. Il avait eu besoin de gérer une chose à la fois. Comme un automate, il avait préparé la cérémonie avec les recommandations laissées par sa femme. Elle lui avait tendu cette enveloppe, quelques jours plus tôt, en lui disant de l'ouvrir plus tard. Elle était restée vague et il n'avait pas posé de questions. Parce qu'en fait, il ne voulait pas savoir. Nous avons discuté silencieusement jusqu'à l'aube. Nos regards dirigés vers le ciel, nous enivrant doucement. David me racontait ses années passées aux côtés de Mélodie. Je souriais à son récit, je n'avais aucun mal à l'imaginer. David s'évertuait à ne retenir à cet instant que l'esprit vif et drôle de ce personnage particulier qui a occupé tant d'espace. Nous avons très peu dormi, allongés sur les chaises longues, dans ce carré d'herbe derrière la maison. Nous sommes réveillés, emmitouflés dans nos plaids respectifs, des haleines douteuses, et courbaturés de partout. Allez, il fallait se mettre en route. La journée allait être longue et éprouvante. Après 3 cafés chacun, nous sommes partis pour lui dire juste un au revoir. J'ai pris place au deuxième rang, derrière la famille, qui n'était pas très nombreuse. Les enfants et David se tenaient droits, face au cercueil. Ils dégageaient une telle force, un tel courage, que je n'avais même pas moi-même. Boucle d'or si petite restait figée, sans verser de larmes. Les enfants observaient, afin de ne perdre aucun de ces derniers instants. La musique a remplacé les longs discours larmoyants. Mélodie avait tout prévu, jusqu'à la couleur des fleurs. Il était hors de question d'avoir du rose. Elle détestait le rose et tout ce que cela représentait. La playlist des années 90, celle qui la suivait dans son quotidien, retentissait dans la petite église. C'était impossible de ne pas la voir se déhancher, rire et chanter faux à tue-tête. Je ne pouvais que sourire. Les larmes coulaient, sans que je puisse les contrôler, mais je ressentais un sentiment de sérénité, de bien-être au milieu de cette petite chapelle de village, au fin fond de sa Corse natale. Elle était partout, elle était tout. Elle était présente à travers ses enfants, dans les yeux perdus de David, et dans les hoquets de son père. Son aura remplissait le vide qu'elle nous avait laissé. Elle avait formulé une demande particulière que David nous avait relayée.
S'habiller en jean basket et surtout pas être tiré à quatre épingles comme les parigots, merci.
Merci Mélo pour ce petit pic. Nous avons compris assez rapidement la signification de cette demande hors norme. Son humour désarmant est venu nous provoquer dans un dernier pied de nez. Un homme, en costume noir corbeau sortant de nulle part, s'est avancé vers nous en tendant un panier en osier. Avec notre tenue de bricoleur du dimanche, nous l'avions repéré rapidement et le suivions du regard. On aurait dit qu'il sortait tout droit de la série Six Feet Under, vous connaissez ? Nous pensions qu'il faisait partie du personnel de l'église et qu'il faisait la quête en fin de commémoration. Mais il y avait une dizaine de bombes de couleurs à l'intérieur du panier. un mot en grosses lettres rené au-dessus.
Allez-y, taguez ma dernière demeure. Je veux partir entourée de vie, de vous, de rire. Et surtout de votre talent.
Elle avait écrit ces mots en préparant son départ. Comment peut-on en arriver là? Organiser un mariage, un baptême, une bar mitzvah, oui. Mais choisir les détails de son départ, de sa fin sur Terre, de son ultime clin d'œil à la vie. Je ne pouvais concevoir que l'on puisse en arriver là. J'en étais mal à l'aise. Brisée. Elle avait tout préparé seule. Laissant son entourage dans l'espoir, dans l'insouciance du « tout est encore possible », alors qu'elle, elle le savait. Je me suis ressaisie rapidement et je me suis emparée de la bombe verte par instinct, avec tout ce que cette couleur pouvait représenter. Son cercueil avait été transporté à l'entrée de l'église. Il était entouré de bâches. Des rayons de soleil, perçant les nuages sombres et orageux, nous éclairaient, comme une allusion divine. Je ne sais pas si je crois en Dieu. Mais dans ce faisceau de lumière, j'ai pensé qu'il venait la chercher. J'avais besoin de me rassurer, de me dire qu'elle partait pour mieux, pour plus beau, pour plus grand. J'imaginais ses grands yeux bleus rire de nous, de moi, sa parisienne. Je l'imaginais pousser la mélodie avec son accent prononcé et sa colère apaisée. Je me suis avancée d'un pas déterminé et solennel. J'ai tendu mon bras, avec dans ma main la bombe verte tenue fermement. Lettre après lettre, je me suis appliquée, lui laissant notre dernière empreinte pour son dernier voyage. God save the melody. Tu voulais de l'humour, Mélo, tu en as. Tu chantais si faux. Et tu aimais tellement chanter. J'ai trouvé ton prénom si provoquant, et la provocation te représentait si bien. Je suis restée quelques jours en Corse, afin de garder encore un peu de mélodie avec moi. J'ai demandé à David de jouer le guide touristique. Il avait besoin d'être occupé, se retrouvant démuni et vidé à la suite de la cérémonie. Nous étions en pèlerinage sur le chemin de notre amour perdu. Il m'a fait aimer la Corse de l'intérieur, comme une locale, en appréciant les odeurs, les couleurs, l'esthétique de paysage, la simplicité des habitants. Prendre le temps d'apprécier ce que la vie nous offre. Je comprenais cette envie de sauvegarde du patrimoine et de leur richesse. Ce nationalisme qui nous fait rire souvent et un peu frémir de temps en temps. J'ai observé ce qu'elle observait, j'ai senti ce qu'elle sentait, j'ai marché là où c'est pas allé, je me suis inspirée. J'ai pris beaucoup de notes afin de retranscrire un maximum d'émotions et de descriptions pour les podcasts. Je devais les rendre à la fin du mois et le départ de Mélodie m'avait tout fait arrêter pendant de longues semaines. Je ne voulais plus continuer. À quoi bon si elle n'était plus là pour les lire, pour y poser sa voix, pour en rire et prendre le recul nécessaire. Ça ne devait pas se finir comme ça. Moi, je voulais un dernier épisode joyeux, un happy end. Mais dans l'église, j'avais pris la décision de la raconter, coûte que coûte, de raconter cette aide qui a chamboulé ma petite histoire. Et parce que je sais que la médecine avance, que l'espoir est là, et qu'il ne faut pas le perdre. Elle ne le voudrait pas, elle, pour les autres, pour celles qui se battent encore ou qui se battront un jour. J'ai voulu passer un peu de temps avec les enfants afin d'apporter un minimum de douceur maternelle. Ils étaient mutiques. J'ai demandé à David s'il avait l'intention de les faire voir quelqu'un afin de libérer leurs paroles. Il m'a regardé comme si j'avais traité ses enfants de fous. Aller voir un psy est effectivement très citadin comme démarche. Je me trouvais dans une petite librairie papeterie et mon regard s'est attardé sur des jolis carnets. Une idée a surgi, j'ai pensé à mon ado, au fait que je l'ai écarté de toute cette période. Je n'ai jamais pris le temps de savoir ce qu'elle ressentait ni comment elle avait vécu le cancer de sa maman pendant le confinement. J'ai pris un carnet bleu, pas rose, qui sera notre livre de communication. À nous d'écrire les lignes sur ces pages jaunies à quatre mains. J'espère qu'elle aimera l'idée et qu'elle acceptera de se confier. J'en prie un pour chaque enfant de Mélodie, dans les teintes de verre. Je n'avais qu'une hâte, c'est de retrouver ma fille. Nous avons prévu de partir en vacances quelques jours à Lyon, voir une de mes sœurs, Laure, qui est partie s'installer là-bas avec son mari. Et devinez où nous partons ensuite ? Ah oui, on part à la montagne. Vous devez imaginer que j'appréhende d'y retourner. Ce lieu que j'aime tant, qui est mon refuge depuis petite, s'est rempli de mauvais souvenirs ces dernières années. Remettre les pieds à l'endroit où Mélodie a perdu tout espoir et où j'avais aussi perdu les miens concernant l'avenir de ma famille. Nous devons y aller pour ma fille Salomé qui y passe ses meilleures vacances et pour moi afin de conjurer le sort. Réécrire l'avenir sur le passé pour l'effacer. La séparation avec David et les enfants a été très compliquée. Nous ne savions pas si on allait se revoir. Le lien était Mélodie et le lien n'est plus. On s'est quand même promis de se retrouver vite, en formule de départ, tout en évitant de trop longues effusions. J'attendais mon avion quand j'ai vu débarquer une femme rousse, solaire, très à l'aise, qui parlait à tout le monde. Elle prenait toute la place et la lumière. Elle s'est aperçue que je la regardais avec beaucoup d'intérêt et elle est venue s'installer près de moi. Naturellement, nous avons commencé à discuter. Elle s'appelait Julia. Elle avait été infirmière et le Covid a eu raison de son dévouement. Elle a tout quitté, son métier et sa Corse natale, pour se lancer à l'aventure de la capitale, monter à Paris pour devenir une étoile. Je ne pouvais la quitter des yeux et je lui ai dit « Je suis très perturbée, tu me fais penser à mon amie qui vient de mourir. » Elle s'est tue, son visage s'est figé un instant, mais elle a vite redessiné un sourire espiègle et lumineux, détendant ses traits joyeux et les mis en paricochet. En y repensant, ma phrase était assez violente et directe pour une personne que je ne connaissais que depuis 10 minutes. Mais c'est à cet instant que nous avions compris qu'on allait faire un bout de chemin ensemble et nous recroiser vite, à la capitale. Épisode joué par Karina B dans le rôle de Catel. Écrit et imaginé par Karina B, produit par l'association Demain. La suite de ton épisode du podcast Le Jour d'après sortira dans quelques jours. Encore un petit peu de patience.